le froid ce matin, puis d'être réunis avec moi sous le regard de Dieu, sous la parole de Dieu. Puis on est dans le thème de David, un cœur qui bat pour Dieu. Puis à chaque fois, on essaie d'apprendre le psaume 23 ensemble. Hein? Donc le psaume 23, êtes-vous prêts? Est-ce que ça commence à descendre, ça commence à rentrer là? C'est précieux, hein? Parce que vous pouvez vous trouver, comme on a dit ce matin, là, sur un lit d'hôpital ou à quelque part dans un endroit sombre, vous n'avez pas la parole de Dieu, mais étant donné que vous l'avez serré dans votre cœur, ça va vous consoler. C'est important de serrer la parole de Dieu dans notre cœur, n'est-ce pas? Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là, j'ai enlevé les paroles, là. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand vous pensez verts pâturages, dans votre tête, pensez, ah, il y a un ruisseau qui coule à travers. Donc, ça va vous amener à l'autre phrase. Il me dirige près des eaux paisibles. Et là, il restaure mon âme. Amen. Ensuite, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et là, quand il me conduit, bien, des fois, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Hein? Il y a une suite logique. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bon, je vois que ça commence à descendre là, dans plusieurs cœurs, dans votre tête. Gloire à Dieu. Ce matin, je vous invite à tourner dans dans 1 Samuel chapitre 17. Donc, David, un cœur qui bat pour Dieu. Ce qu'on va voir ce matin, c'est que seul un cœur qui bat pour Dieu peut expérimenter sa paix et sa victoire. Donc, Samuel, 1 Samuel, chapitre 17. Je suis dans la version Semeur. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soco en Juda et dressèrent leur camp entre Soco et Azekah à Éphès-Damim. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant opposé. La vallée séparait les deux armées. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60 kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance, à lui seul, pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes d'Israël et leur cria, « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme, et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur, et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta, « Je lance aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme, et nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. On va prier. Seigneur notre Dieu, roi du ciel et de la terre, nous sommes en ta présence, Seigneur, ce matin. Toi, le Dieu vivant, qui règne en roi sur l'univers. Seigneur, on veut s'approcher de toi avec révérence, avec humilité et avec une espérance que tu vas nous parler ce matin. Oui, Seigneur, parle à nos cœurs. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation pour te connaître. Chasse toute obscurité. Que toute autre voix se taise ce matin dans nos cœurs. Qu'on entende et qu'on voit toi seul, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Fais descendre la parole dans nos cœurs, qu'elle puisse porter fruit pour la gloire de Jésus. Amen. Une armée paralysée. Qu'est-ce qu'on voit ici? L'armée des Israélites, qui est le peuple de Dieu, est paralysée par la peur. La volonté de Dieu pour Saül et l'armée d'Israël était qu'ils avancent et qu'ils remportent la victoire sur ceux qui les opprimaient. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les dernières semaines, on a vu que les Philistins dominaient en Israël. Ils étaient rois et maîtres. Les Israélites étaient sous leur domination. Ils étaient leurs esclaves, en quelque sorte. Et Dieu voulait libérer son peuple, libérer des Philistins qui les gardaient sous leur domination, alors qu'ils étaient esclaves. Dieu les avait libérés, n'est-ce pas, d'Égypte. Et il les avait amenés sous son règne. Il les avait choisis, sauvés de l'esclavage de l'Égypte. Donc, Saül et ses hommes, quand on lit la suite des choses, ils se lèvent à chaque jour, ils se préparent, ils se rangent en formation de bataille. Et là, qu'est-ce qui arrive? Rien du tout. C'est comme si ils ne font que pratiquer les rituels externes du soldat et d'une armée sans exécuter leur travail. Ils sont paralysés par la peur, par l'anxiété. Et pour cette raison-là, le pays va demeurer sous la domination de l'ennemi si rien ne change. C'est quoi l'anxiété déjà? Vous savez, je vous en parle de ce temps-ci. Je vous avais dit qu'une anxiété, c'est une peur intense née d'un sentiment d'incapacité à faire face à une situation menaçante. Une situation menaçante que tu considères que ça dépasse tes capacités d'y faire face, peu importe la menace. Et là, ça crée de l'anxiété. On a déjà vu ça avec Saül au chapitre 13. Vous vous rappelez, lorsque l'armée philistine, à cette époque-là, l'entourait et que lui, paniqué, n'avait pas attendu Samuel, le prophète, qui avait dit « Attends-moi 7 jours ». Et Saül, à cause de sa peur, de son anxiété, il avait pris les choses en main, il avait désobéi à la directive de Dieu donnée par Samuel, oui, mais la source de sa désobéissance, c'était son anxiété. Et on comprend, il était dans une situation très difficile. Mais la source de son anxiété, c'était quoi? C'est qu'il se reposait sur lui-même, sur ses forces. Donc, tu es face à une situation, tu dis, non, je ne peux pas faire face à ça, mais c'est parce que tu es centré sur toi-même. Tu t'appuies sur toi-même, et c'est ce que Saül faisait. Vous voyez ce dessin ici, là? Alors, il y a une menace. Une menace vient frapper ton cœur. Ton cœur, s'il est égocentrique, s'il est centré sur lui-même, s'il se repose sur ses désirs et ses capacités, ses forces, bien c'est là que l'anxiété arrive. Et où est Dieu dans ce portrait-là? Il est très, très, très loin en arrière, tellement loin qu'il est petit, petit, petit. Et ton problème est énorme. Oui. Ton problème est énorme. Et c'est ça qui cause l'anxiété. Donc, l'anxiété avait poussé Saül à désobéir, à prendre les choses en main. Et des fois, l'anxiété, ça peut faire ça dans nos vies. On prend les choses en main. Puis on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais j'ai pas le choix. Hein? C'est ça qu'il disait, Saül. J'ai pas le choix. J'avais pas le choix, là. L'armée des Philistins m'entourait. Et je t'attendais. Mes hommes commençaient à me quitter. Et là, il a fallu que je me fasse violence puis que je fasse les sacrifices. J'avais pas le choix. Non, tu n'avais pas le choix rendu là, dans la séquence des événements. Hein? Tu t'appuies sur toi, une situation menaçante arrive, tu vois pas de solution, donc tu t'improvises une solution. Et tu dis, j'ai pas le choix. Mais Samuel avait dit à Saül, quoi? Tu agis en insensé. Et ça, on a vu qu'est-ce que ça voulait dire, insensé. C'est quelqu'un qui vit comme si Dieu n'existait pas. Mais ici, l'anxiété produit un autre comportement. C'est quoi? La paralysie. On voit que l'armée est paralysée. Une incapacité d'agir, de bouger, de faire quoi que ce soit. As-tu déjà expérimenté l'anxiété comme ça? Pour te paralyser? Oui, moi aussi. Bien sûr, tout le monde l'expérimente, et pour certains, c'est quotidien. Mais le problème, c'est que si tu es paralysé par l'anxiété, tu n'accompliras pas quoi? La volonté de Dieu pour ta vie. Tu vas manquer à tes responsabilités. Tu n'interviendras pas quand c'est le temps et de façon appropriée. Où est Dieu dans le portrait? Loin, 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 loin. Petit, petit, petit. C'est ce qu'on appelle l'athéisme pratique. Savez-vous qu'il y a des chrétiens athées? Ah oui, on croit en Dieu. On est convaincu que Jésus est venu nous sauver, etc. Mais dans la vie de tous les jours, là, lundi matin, on vit, on agit, on parle comme si Dieu n'existait pas. On prend les choses en main ou on est paralysé par la peur. Ça démontre qu'on vit une vie centrée sur soi. Lorsqu'arrivent ces situations menaçantes, on oublie Dieu. On ne le voit pas, on ne le ressent pas, on n'y pense même pas. Dieu est très loin dans l'arrière-plan. L'anxiété est le symptôme que produit l'athéisme pratique. Je vais répéter. L'anxiété est le symptôme que produit l'athéisme pratique, parce qu'elle révèle que ton cœur ne s'appuie pas sur Dieu, mais sur toi. C'est toi au centre. Tu mènes une vie égocentrique. Mais comment se fait-il que nous, qui croyons sincèrement en Dieu, en Jésus, on peut agir comme ça? On peut devenir paralysé par l'anxiété? Comment Saül et son armée sont arrivés à ce point-là? On voit ici dans l'histoire qu'il arrive une situation inattendue. Hein? Souvent, c'est une situation inattendue qui nous frappe. Et là, il y a un géant, un monstre qui sort de l'armée. C'est un descendant des fils d'Anak, Goliath. Il mesure presque 10 pieds. Moi, j'ai un patient, et il faut qu'il se baisse la tête pour passer le quart de porte. Là. C'est 6 pieds 9. C'est mon plus grand patient que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est pas le plus grand homme que j'ai jamais vu, mais 6 pieds 9, là. Il est tout petit à côté. Peut-être que Saül mesurait 6 pieds 9, parce que c'est marqué qu'il était plus haut que des épaules de la tête. Hein? Saül. Mais Goliath, 9 pieds, ou presque 10 pieds. C'est incroyable, là. Et là, il lance un défi aux hommes d'Israël. « Envoyez-moi un homme qu'on se batte en combat singulier. Si je gagne, vous serez nos esclaves. S'il gagne, nous serons les vôtres. » Et tout à coup, une pression énorme se fait sentir par tous les hommes dans l'armée. On est devant un dilemme et tout le monde fige. C'est comme s'ils sont incapables de refuser le défi lancé par Goliath. Sont incapables de refuser son défi, mais ils sont incapables d'y répondre. Ils sont entre l'arbre et l'écorce. On dit ça en bon québécois. Je suis entre l'arbre et l'écorce. C'est comme si Goliath disait, s'il y a un homme parmi vous, là, qui vient de me voir, qu'on se batte ensemble, s'il y a un homme. La semaine passée, j'avais demandé à deux frères de transporter une table, puis il y en a un des deux, et j'ai dit, est-ce que vous pouvez déménager la table? Et un des deux, il dit, bien, si j'avais un homme avec moi, on pourrait le faire. En parlant de l'autre. Mais l'autre, c'était Rémi, là. J'ai dit, tabarnouche, je ne dirais pas c'est qui a dit ça, là, mais... Fait que c'est comme Goliath dit, s'il y a un homme là, dans votre armée, s'il y en a un là, qui vient de me voir, un. Donc, si quelqu'un va se battre, il va sûrement perdre. Mais s'il ne se bat pas, ben on est tous comme des lâches. Hein? On est tous des lâches. Fait que qu'est-ce qui se passe? Ils se lèvent, ils mettent leur armure, ils se mettent en rang comme ils devraient faire. Puis à chaque fois, Goliath sort puis il s'enfuit. Un peu comme un chrétien, hein? Qui lit sa Bible le matin, qui prie, qui fait toutes les bonnes choses, puis qu'arrivé au travail ou arrivé, peu importe, dans le commerce ou peu importe, avec les voisins, oups, s'enfuit. On fait les bonnes choses, on pose les bonnes actions, on fait tout, mais on est paralysé par la peur. Mais est-ce qu'ils étaient obligés de se plier à cette pression de Goliath? Pourquoi se sent-il obligé d'accueillir le défi lancé par Goliath? Ils sont piégés par quoi, au fond? Ils sont piégés par leur orgueil. L'orgueil d'être incapable de refuser le défi à leur masculinité. Goliath nous a lancé un défi. Si vous êtes des hommes, s'il y en a un qui vient se battre, c'est un défi, c'est un challenge. Ça remet en question leur capacité de soldat, leur masculinité, etc. Mais en réalité, c'est un faux dilemme. C'est un faux dilemme parce qu'au départ, ils n'étaient aucunement obligés d'accepter ce défi. Pas vrai? En réalité, la pression qu'ils ressentent, c'est faussé. Voyez-vous comment le focus n'est plus sur Dieu, mais sur eux? Goliath a réussi à mettre le focus sur eux en tant qu'hommes. Nous sommes forts, nous sommes des soldats, nous faisons partie de l'armée de Saül. C'est là encore qu'on voit que Dieu n'est pas au centre du cœur de Saül ni de ses hommes qui suivent son exemple. As-tu déjà été dans une situation où on te mettait de la pression, soit pour acheter quelque chose, soit pour accepter une situation, une offre d'emploi, une relation, soit une pression de tes collègues de travail, une pression forte, là? Ça vient faire appel à quelque chose dans ton cœur, un désir, ou un souhait, ou un enjeu dans ton cœur. Et tu sens que tu n'es pas capable de refuser à cette pression-là. Moi, lorsque j'étais étudiant au cégep, je travaillais comme préposé aux bénéficiaires dans un hôpital les étés, pendant 3 étés dans un hôpital de vétérans et un autre été dans un hôpital général. Mais le premier été, lorsque j'étais préposé, j'avais reçu la formation, tout ça. On était un groupe de 15 étudiants, puis là, on nous forme pour l'été, puis là, on nous dispatche sur nos unités. Et moi, je suis dispatché sur une unité. Et je suis de soir, le chiffre de soir. Et là, on fait le tour, on donne les bains, on donne le repas, on couche les gens. Et là, l'autre préposé, qui est un homme près de 50 ans, il dit, OK, c'est beau, on a terminé, on s'assoit au poste, on attend la pause. Mais là, il y a des cloches. Fait que je me lève pour aller répondre. Non, 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 non. Non, non, on a fait la tournée tantôt. Ça va aller à la fin du chiffre. Quoi? Oh, une autre cloche qui sonne. Je me lève. Non, 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 non. On a fini notre travail jusqu'à la fin du chiffre. On attend la pause, là. Et là, finalement, j'ai dit, regardez, moi, j'y vais, là. Fait que je me suis levé. Hier, il pouvait avoir, excusez-moi le détail, mais il pouvait avoir des gens qui avaient fait dans le lit. Et ils restaient là, dans leurs excréments. Jusqu'à 11 heures le soir. On est peut-être 7 heures le soir, là. OK? Puis moi, quand j'y allais, ben là, je me faisais chicaner après. Il y avait une pression à se conformer. Il y avait une pression à être aimé par les autres préposés, à faire partie de la gang. Et même, il y avait une menace physique. Certains de mes autres étudiants, qu'eux aussi, ils osaient défier là, l'omerta, ben ils se faisaient couper leurs pneus d'auto, là. Trancher les pneus d'auto dans le stationnement. Puis moi, celui qui était avec moi, il y avait des menaces voilées. Mais Dieu a pris soin de moi. Parce que mon ami qui venait me chercher à la pause, là, il mesurait 7 pieds. Il mesurait 7 pieds, le gars. Puis l'autre, il s'est calmé. Ou, lorsqu'on était en train d'acheter notre maison, on avait mis devant Dieu, on va mettre ça devant le Seigneur pour tel prix. Si c'est accepté, c'est ta volonté. Si c'est pas accepté, c'est pas ta volonté. Et là, ça n'avait pas été accepté. Alors l'agent nous dit, « Mais là, écoute, la différence, c'est juste 5 000 $ là. Mettez-en plus, mettez-en 5 000, puis vous allez l'avoir. » Donc là, la pression arrive, qu'est-ce qui va arriver, là? C'est la maison qu'il nous faut. Puis il faut le faire, il faut se faire violence. Hein? On a entendu ça tantôt. Saül qui a dit ça, on n'a pas le choix. Fait qu'au départ, on avait bien commencé, on s'appuyait sur Dieu, on mettait ça devant le Seigneur, mais arrivé là, sous pression, on a fini par s'appuyer sur nous autres mêmes. On a mis le 5 000 $ de plus, mais ça a fait que notre budget ne fonctionnait plus après. On a eu la maison, mais notre budget ne fonctionnait plus, puis on s'endettait progressivement de plus en plus. J'ai agi comme un athée, j'ai pris les choses en main. Et des fois, c'est ça qui se passe, ou une paralysie comme on a vu ici dans la situation de Saül et son armée. Mais je veux juste faire une parenthèse. Lorsque tu ressens une pression, là, une pression à agir ou à acheter ou à faire quelque chose, ça presse là, c'est là, ça ne vient jamais de Dieu. OK? C'est clair? Je le répète. Lorsque tu sens poussé par quelqu'un ou une situation à agir, là, une pression là, à agir, là, c'est vite, c'est là. Ça ne vient pas de Dieu jamais. Jamais. OK? Dieu ne fait pas ça. Dieu n'est pas un Dieu qui fait pression. Dieu nous conduit doucement par la main. On l'a entendu, l'Éternel est mon berger. Fait que si jamais tu sens une pression, là, ça ne vient pas de Dieu. OK? Je veux que vous reteniez ça pour le restant de vos jours. Les fois où nous avons réalisé qu'on était sous pression, on s'est... Hop! Oh, c'est comme s'il y a une petite alarme, il y a une petite lumière qui allume. Ça ne vient pas de Dieu, là. Il faut faire attention. Puis on a dit non, ça va. On va attendre pour acheter l'auto. On va attendre pour faire ci. On va attendre pour faire ça. Nous ne plierons pas à la pression d'un faux dilemme. Il y a toujours une troisième option lorsqu'on se tourne vers Dieu. Amen. Saül et ses hommes auraient pu répondre quoi dans le fond? Non, nous n'accepterons pas ton défi. Nous allons avancer ensemble au nom de Yahvé, car c'est là ce qu'il nous demande de faire. Nous allons nous lever et nous allons avancer Nous ne nous laisserons pas piéger par notre orgueil devant ton défi. Est-ce que c'est clair? Ils n'ont pas fait ça. Les voilà paralysés par l'anxiété. Ils sont piégés par leur orgueil parce qu'ils s'appuient sur eux-mêmes. Ils répondent à la pression d'un faux dilemme. La victoire écrasante de la foi. Tout à coup, David entre sur scène. Verset 12. On reprend la lecture. Or, David était fils d'un Éphraïtien de Bethléem en Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils. Au temps de Saül, Isaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. L'aîné s'appelait Éliab, le second Abinadab et le troisième Shammah. Quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Pardon. Chaque matin et chaque soir, le Philistin Goliath venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. Ils sont paralysés pendant 40 jours. C'est à cette époque-là qu'Ésaïe dit à son fils David, « Prends cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, porte-les vite au camp pour tes frères. Emporte aussi des 10 fromages, tu les donneras au chef des milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en rapporteras de leur part un gage. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Chêne face aux Philistins. » Le lendemain de bon matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit ses provisions et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant le cri de guerre. Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et confia aux gardiens des bagages, puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. « L'avez-vous vu s'avancer contre nous? » dit l'un d'eux. « Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. » David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, « Qu'est-ce qu'on lui donnera à celui qui abattra ce Philistin, qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée? Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? » On répéta à David ce qui était promis comme récompense et celui qui tuera le géant. Lorsque son frère aîné, Éliab, entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui. Il lui dit, « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » David lui répondit, « Hey, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? » Puis, il retourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat. Et on lui fit la même réponse que la première fois. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, qui aussitôt le fait venir. David lui dit, « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. » Mais Saül lui répondit, « Tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David répondit à Saül, « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule, et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons ou l'armée du Dieu vivant. » Puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. » Puis, il lui fit revêtir de sa propre armure et lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül, puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je ne suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout. Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace, et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Tout à coup, David entre sur scène. Il s'informe. C'est toujours bien de s'informer. Quand tu te trouves dans une situation qui semble impossible, là, qui ne semble pas avoir d'issue, là, informe-toi. Pose des questions. Souvent, il y a une fausse pression qui est basée sur une fausse information. Exemple. C'est notre dernier modèle, là. C'est le dernier, puis ça achève, c'est terminé. OK. Ça peut être vrai, comme ça peut ne pas être vrai. OK? Informe-toi. C'est toujours bien de s'informer. David, il se prend le temps de s'informer. David se fait mépriser et juger par son frère aîné. Quand tu agis par la foi, tu peux t'attendre à ça. Tu peux t'attendre à ça, même de la part de tes proches, même de la part des frères et sœurs dans le Seigneur. Parce que malheureusement, beaucoup de nous vivons encore des vies égocentriques. Donc, on n'a pas l'habitude de s'appuyer totalement sur le Seigneur. Donc, quand quelqu'un arrive qui s'appuie vraiment sur le Seigneur, on le méprise. Alors, on dit, oh, ouais, toi, tu es jeune, là, tu vas comprendre plus tard là, comment ça marche. Fait qu'il se fait mépriser. On se rappelle que Jésus était méprisé de ses frères aussi. Hein? Et là, David va affronter le géant et apporter une victoire écrasante. Ça veut dire que toi aussi, tu peux affronter les géants dans ta vie et l'écraser par la foi. Amen! Time out. Wow! Time out. Wow, wow, wow! C'est comme il y a quelques années, j'écoutais un match de football américain, puis l'arbitre, là, il met son micro, puis il parle pour la télé, là, puis il donne un signal, puis là, il dit « Minute, puis il change son jugement. Minute. Je vais répéter ce que j'ai dit. Cela veut dire que toi aussi, tu peux affronter les géants dans ta vie et les écraser par la foi. Amen. 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 Attendez. Oui, David est un héros de la foi. Oui, il figure dans la liste des héros. Oui, il a remporté une victoire par la foi, mais s'il a remporté la victoire par la foi, c'est ce qu'il nous dit dans Hébreux 11, il faut s'arrêter un peu pour se rappeler qu'est-ce que la foi. La foi, ce n'est pas une croyance très forte. Ce n'est pas une croyance qui existe dans un vacuum. Okay? La foi n'existe pas dans un vacuum. Ça, on appelle ça une superstition. Beaucoup de gens s'imaginent que la foi, c'est ça. La foi chrétienne, c'est une croyance très forte. Ils croient à ça. Mais ça ne s'appuie sur rien. C'est comme dans le vide. On appelle ça une superstition. Ça relève de l'imaginaire. C'est totalement subjectif. C'est pas vérifiable. C'est pas scientifique. Ce n'est pas ça, la foi biblique. OK? La foi, c'est simplement s'appuyer sur la personne de Dieu et en particulier sur ce qu'il a dit. Sans ça, la foi ne peut pas exister. C'est de croire pas à quelque chose que tu imagines ou que tu veux. C'est de croire à ce qu'on t'a dit et par qui ça a été dit. C'est ça, la foi biblique. Okay? un Dieu qui existe vraiment et qui l'a prouvé, car il a agi dans l'histoire et il continue d'agir aujourd'hui. Un Dieu qui s'est révélé à nous à travers Jésus, qui a réellement existé et qui nous a démontré sans l'ombre d'un doute qu'il était vraiment Dieu fait homme. La foi, nous dit la parole de Dieu, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est la parole qui suscite la foi. Sans cette parole, pas de foi. Si tu as une croyance comme ça, qui est basée sur peu importe, ce n'est pas la foi. C'est une superstition. Il ne faut pas laisser un chat noir traverser ton chemin. Pourquoi? Bien, ma grand-mère disait ça. Ah oui, OK. Bien, c'était basé sur quoi? Ah, je ne sais pas, mais il ne faut pas faire ça. Ça, ce n'est pas la foi, c'est une superstition. Oui, mon frère. Une présomption également. Un bon point. Un bon point. Penser que Dieu voudrait quelque chose fait qu'on dit, OK, moi je veux ça aussi. Mais dans le fond, j'ai fait la projection. Hein, j'ai prêté des choses à Dieu qu'il n'a pas dit ou qu'il n'a jamais promis. Donc, la foi, nous dit Hébreux 11, c'est la certitude, la conviction, la démonstration des réalités qu'on ne voit pas, mais qui sont réelles, une ferme assurance de posséder ce qu'on espère, mais elle s'appuie sur quelque chose de solide. C'est pas juste « Ah, oh, j'espère que demain, j'aurai pas trop de misère avec telle affaire. » Non, non, ça, c'est pas la foi. Si Dieu dit « Je vais pourvoir à tes besoins », tu peux dire « J'ai pas peur de manquer de nourriture. » Dieu a dit « Ça, c'est la foi. » Ça, c'est la foi. Bon. De quelle façon voit-on cela dans les paroles et les actions de David? Regardez avec moi, verset 26. Premièrement, David dit, « Qu'est-ce donc cet incirconcis de Philistin? » Ça veut dire quelqu'un qui ne croit pas dans le vrai Dieu, un païen qui vit sans connaître Dieu, pour oser insulter l'armée du Dieu vivant. Fait que pour David, non seulement Dieu est vivant, mais il croit qu'Israël, c'est son peuple choisi, hein? Puis que les armées, ce sont les armées de Dieu. Comme Dieu avait dit, c'est Dieu qui a dit ça. Donc, premièrement, on le voit dans ses paroles. Verset 36 maintenant. Si on reprend l'histoire au verset 31, verset 36. Et il parle à Saül, « Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra cet incirconcis de Philistin, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Deux fois. Ou les bataillons du Dieu vivant. Finalement, au verset 45, lorsqu'il est face à Goliath, il dit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël ou de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Trois fois, même quand Goliath se moque de lui, trois fois David répète la même chose. Ce ne sont pas de simples paroles dites du bout des lèvres, ça vient d'une conviction profonde dans son cœur, puisqu'il les répète trois fois et que son discours reste pareil, peu importe devant qui il se tient. Ça, c'est une marque de vraie foi. Peu importe, il est avec les soldats, il dit ça. Devant le roi Saül, il dit ça. Devant Goliath, il dit ça. Trois fois. Dieu agit souvent comme ça, trois fois. Tu vas voir, dans la Bible, c'est souvent Dieu dit quelque chose, bang, bang, trois fois. Trois fois, confirme, bang, 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 trois fois. Quand c'est trois fois, c'est confirmé. Cette foi se concrétise par des paroles. Des actions, la vraie foi déclare, la vraie foi agit. L'enjeu pour David, c'est la gloire de Dieu. Hein? C'est la gloire, l'honneur de Dieu. Dieu est au centre, son cœur bat pour Dieu. C'est comme si David disait, « Nous sommes l'armée de Dieu, le Dieu vivant. Si nous nous laissons paralyser par la peur à cause d'un défi lancé par un simple homme qu'il mesure 10 pieds ou plus, c'est que notre Dieu est trop petit, trop faible, et peut-être qu'il n'existe tout simplement pas. » Ça vient déshonorer qui? Dieu. Fait que le oui, ce que j'ai dit tantôt, ça veut dire que par la foi, tu peux affronter les géants et les vaincre, mais, premièrement, ton cœur doit être centré sur Dieu. Ton cœur doit agir pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas une licence pour dire « Tu peux affronter tes géants dans ta vie puis toutes les vaincre. » Ça, ce n'est que l'humanisme mal voilé. Vous savez c'est quoi ça, l'humanisme? L'humanisme, c'est centré sur moi. « T'es capable! Vas-y! Fonce! » Et on va se servir de la parole de Dieu pour encourager ça. « Tu peux affronter tes géants! Rien ne peut tenir devant toi parce que tu es un enfant de Dieu! » Ah ouais, OK. Sais-tu ce que ça produit, ça, quand on ne spécifie pas qu'il faut que ton cœur, premièrement, soit accroché à Dieu et à ses projets à lui? Qu'est-ce que ça produit? Ça produit des chrétiens qui sont tannants pour les gens autour d'eux, qui n'honorent pas le Seigneur Jésus, qui sont centrés sur eux, qui poussent les autres. Parce que moi, je suis enfant de Dieu, qui impose leur volonté, qui veulent à tout prix que le projet marche, puis que les autres, tassez-vous, parce que moi, j'ai la foi. Moi, je peux renverser les géants. Mais c'est leur propre projet. Leur cœur n'est pas centré sur Dieu. Leur cœur est égocentrique. Donc, n'allez pas penser que ça, là, ça vous donne licence d'imposer toute votre volonté aux autres alentour de vous, puis de les écraser, puis tassez-vous, parce que moi, j'ai la foi. Il faut d'abord regarder à qui était David. Un cœur qui était centré sur Dieu. Et on l'a vu la semaine passée, quand il allait jouer pour Saül, le vieux roi que Dieu a abandonné, puis que maintenant David est conscient que c'est lui le nouveau roi, là, hein? Puis il va jouer pour lui. Puis on a vu, quand il joue, l'esprit part. On a conclu que c'était l'esprit de Dieu en David qui faisait en sorte que l'autre esprit partait. Donc David jouait sous l'influence de l'esprit, qui veut dire que David chantait pour qui, dans le fond? Pas pour Saül, même pas pour lui-même. Il chantait pour l'Éternel. Et David est vraiment et complètement dans la paix et la confiance. Moi, quand je lisais cette histoire-là, quand j'étais jeune ou je l'écoutais à l'école du dimanche, j'étais stressé, là. Je voyais l'image dans les livres là, du géant qui est là-bas, puis David qui se penche pour ramasser les cailloux, puis je me disais, « Vite, David, dépêche-toi! » J'étais stressé, là. Puis on pourrait s'imaginer que David... Il est courageux, David, parce qu'il affronte ses peurs. Non, David n'est pas dans la peur. David est dans la paix. Il est dans la paix. Il n'essaie pas de contrôler sa peur, là. Il est dans la paix complète. C'est l'an passé, à l'automne, on était en voyage vélo, puis on avait un guide qui était vraiment bon, mais... Il était stressé. C'était son premier voyage en Europe avec un groupe. Puis une des phrases qu'il nous répétait, c'était « Zéro stress! Zéro stress! » Mais tu voyais que lui, là, il était stressé. Là, je lui posais une question. « Mettons, Simon, on peut-tu aller chercher le vélo? Le garage va-tu être ouvert ce soir? » « Zéro stress, Brian! Zéro stress! » OK? Bon, moi, je n'étais pas stressé, là. Mais c'est pas comme si David il est en train de se convaincre, de se pomper, là. « Moi, je vais y aller. » Non, il est complètement dans la paix et la confiance parce que son Dieu, là, il est beaucoup plus grand que le géant. Beaucoup plus grand.
Il y a aussi l'expérience, parce qu'il cite justement le lion, c'est que l'expérience
Oui, c'est un bon point. Il a déjà vu Dieu agir. Il a déjà vu Dieu agir. Puis quand on est dans une situation comme ça, c'est un bon point, hein? De se le rappeler. Oui, regarde comment est-ce que Dieu agit dans le passé. Pourquoi je serais paralysé par la peur aujourd'hui? Hein? On oublie. Bon, la Bible dit à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3, 4. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Tu assures une paix parfaite. Lorsque tes problèmes te semblent trop gros, lorsque tu n'arrives pas à vaincre, lorsque tu es dans l'anxiété, dans la peur, dans la paralysie, c'est parce que ton Dieu est loin, c'est parce que ton Dieu est trop petit, c'est parce que Dieu n'est pas au centre de ta vie, c'est parce que tu ne t'appuies pas vraiment sur Dieu. Qu'est-ce qu'on voit sur David encore? Verset 45. Il appelle Dieu le Seigneur des armées, l'Éternel, le Dieu des armées ou le Seigneur des armées célestes, au verset 45. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Qu'est-ce que ça veut dire au nom de? On l'a vu quand on a étudié l'expression au nom de Jésus. Ça veut dire de la part de. Ça veut dire en représentant. Arrêtez au nom de la loi. Hein? Ça veut dire quoi? Par l'autorité de la loi, je te dis d'arrêter. C'est pas mon autorité, c'est au nom de la loi. Au nom de Jésus. Au nom de l'Éternel. Je suis là comme un représentant de l'Éternel des armées célestes. Wow! David, il n'est pas là parce qu'il se croit fort et meilleur que les autres. David, il n'est pas là parce qu'on lui a dit, « David, tu peux vaincre tous les géants dans ta vie, là. Tu es capable. Vas-y. » Non. David est là parce qu'il représente le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Et il connaît ce Dieu-là intimement. Il l'a déjà vu agir. C'est lui qui donne la victoire. Verset 46. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. C'est le contraire de l'orgueil, là. C'est l'humilité. Mais une humilité, ça ne veut pas dire faiblesse. Humilité, ça veut dire je m'abaisse, hein, volontairement. Je me mets sous quelque chose. Là, il se met sous la puissance et la protection de Dieu. C'est lui qui me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. C'est la parole de la foi. La vraie parole de la foi, basée sur ce que Dieu a dit et sur ce qu'il est, cette foi-là peut proclamer à l'avance ce qui va arriver. Mais attention, encore là, il y a des enseignants qui disent, « T'as juste à le déclarer, puis ça va arriver. » Non. Attention. Encore là, ça peut t'amener à être égocentrique, à être orgueilleux. Si Dieu le dit, si c'est conforme à la volonté, à la personne de Dieu, là, oui. Jésus dit, tu pourras dire à cette montagne-là, « Lève-toi, va te jeter la main, et ça se fera. » Là, c'est la vraie parole de la foi. Ça concerne le royaume de Dieu, pas ton royaume. Ça concerne les intérêts de Jésus-Christ. Ça concerne la parole de Christ. Là, tu peux t'appuyer et tu peux déclarer des choses. OK? C'est clair? C'est vrai? Faites attention, parce qu'il y a des subtilités qui font que la chose peut être faussée. OK? Oui? Oui. Oui, c'est ça, exactement. Et David déclare encore que la bataille ne se décide pas par la force humaine. Toute cette multitude assemblée saura que c'est ni par l'épée ni par la lance, verset 47, que l'Éternel délivre, car l'issue de la bataille dépend de lui et il vous livre en notre pouvoir. Oui, donc David remporte la victoire par la foi, mais la foi qu'il y a un Dieu vivant et puissant qui a droit à toute l'honneur et la gloire que je peux lui donner par mes paroles et mes actions. La leçon n'est pas que tu peux terrasser tous les géants dans ta vie, les situations qui te dépassent, mais que Dieu est le Dieu glorieux, créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, qui, lui, mérite d'être au centre de ton cœur et de ton être. Si c'est le cas, alors oui, tu pourras affronter les défis que le monde ou Satan te lance, parce que tu ne seras pas piégé par ton orgueil, tu vivras une vie christocentrique. Jésus est le vainqueur. Cette histoire de David devrait nous amener, non pas à nous centrer sur nous, mais à nous rappeler que Jésus est l'antitype de David. Jésus, le fils de David, est venu affronter notre plus grand ennemi, la mort, et celui qui détenait le pouvoir de la mort, Satan. En parlant de lui, l'auteur de la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament déclare « Ainsi donc, Hébreux 2, 14, 15, en parlant de Jésus, puisque ses enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, Jésus, de la même façon a partagé leurs conditions. Il a fait, pour réduire à l'impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. » Wow! Jésus, c'est l'exemple suprême. Vois-tu comment ce verset-là parle de notre condition à nous, condition humaine? Il dit quoi? Il dit comme Saül et ses hommes, nous sommes dans la peur. Nous sommes réduits à l'esclavage. Nous sommes retenus sous son pouvoir. Et donc, ils étaient restés esclaves des Philistins. Nous, les êtres humains, on a une peur qui nous habite tous. C'est la peur de la mort. Et pour l'éviter, on demeure esclave d'une vie qui est régie par la volonté humaine et la volonté de Satan. Satan qui règne dans le monde spirituel, qu'on le voit ou non, qu'on le veuille ou non. Mais Jésus, lui, il s'est laissé condamner par les hommes et par Dieu. Il a pris sur lui tes péchés, mes péchés, et il a accepté d'affronter la mort pour nous. Il l'a fait pour accomplir la volonté de Dieu. Il l'a fait premièrement pour la gloire de son Père. Connais-tu ce Sauveur personnellement? L'as-tu reçu? L'as-tu accueilli comme ton Sauveur et ton Roi? Jésus a affronté le jugement de Dieu pour toi. Jésus a affronté Satan et la mort pour toi, pour que tu sois libéré du royaume et de l'esclavage de Satan, libre et en paix, pas dans l'anxiété. Jésus dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dans la version Sommeur, il dit, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés, ne soyez pas dans l'anxiété. N'ayez aucune crainte en votre cœur. Jésus, le vainqueur, veut te donner sa paix parfaite. » J'aimerais vous lire quelques pages en terminant de ce livre. Ça s'appelle « Chrétien athée ». Quoi ça, chrétien athée, ça se peut pas? Ben, c'est comme on a dit, on peut être chrétien, on peut être croyant dans notre tête, mais dans la vie de tous les jours, on arrive à vivre comme si Dieu n'existait pas. Donc, l'auteur, c'est Craig Groeschel, et voici ce qu'il dit. Il y a plusieurs années, j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience des contradictions qu'il y avait entre ce que je professais croire et ce que je vivais réellement au quotidien. J'affirmais que dans mes prédications, que les gens sans Christ vont en enfer, mais mon comportement ne manifestait pas le profond désir qu'ils soient touchés par l'Évangile et l'amour de Dieu. Je croyais que le Seigneur voulait me voir vivre autrement, mais je trouvais qu'il était plus facile de comparer ma vie à celle des autres plutôt que de la mesurer à celle de Christ. Je disais que la prière est quelque chose d'essentiel, mais ma vie de prière était presque inexistante. La parole de Dieu déclare que notre trésor ne devrait pas être sur la terre. Pourtant, j'étais sans cesse préoccupé par les choses matérielles. En Matthieu 6, 34, Jésus dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Pourtant, je m'inquiétais aussi naturellement que je respirais. » Selon l'Écriture, j'appartenais véritablement à Christ. Je devais lui abandonner. Si j'appartenais véritablement à Christ, je devais lui abandonner toute ma vie. Mais en réalité, je ne lui donnais que des petites parties que je reprenais quand il ne faisait pas ce que je voulais. Je me disais chrétien, mais je vivais comme un athée. Plus je suis devenu honnête avec moi-même, plus j'ai détesté vivre comme un non-croyant et plus j'ai eu soif d'une communion intime avec Dieu. Quoi qu'il en coûte, Seigneur, est devenu le cri de mon cœur. J'étais prêt à payer le prix pour connaître réellement. Prêt à payer le prix pour vivre comme quelqu'un qui aime vraiment Dieu. Prêt à payer le prix pour m'attacher aux choses éternelles plus qu'à celles de ce monde. Même s'il fallait combattre mon athéisme chrétien, le fuir et l'éradiquer pour pouvoir vivre véritablement comme quelqu'un qui avait été crucifié avec Christ, dans la foi et dans une entière obéissance au Seigneur. J'étais prêt, peu importe le prix. Je suis prêt, peu importe le prix. Dépasser la troisième ligne. Un jour, j'étais à la maison en train de faire du vélo, sur place, vélo stationnaire, et d'écouter en même temps une prédication sur mon iPod, quand tout à coup, j'ai dû m'arrêter. Ressentant particulièrement la présence de Dieu, je me suis mis à genoux et j'ai crié à lui. Si vous m'aviez vu, vous auriez cru que j'étais en train de m'effondrer, mais en réalité, le Seigneur est en train de me reconstruire. Je l'ai supplié de me remplir entièrement de lui, et immédiatement, sa présence est devenue réelle dans mon cœur. Même si j'étais incontestablement né de nouveau, une dizaine d'années auparavant, c'était comme si je naissais à nouveau, de nouveau. J'avais toujours cru que Dieu peut accorder des visions spirituelles, mais je n'en avais jamais fait l'expérience. Ce jour-là, cependant, j'ai vu une image aussi claire que les mots de cette page. Trois lignes tracées dans le sable. Et quelque part, je savais ce que chacune d'elles représentait. La première ligne. La première ligne, c'est que je crois suffisamment en Dieu et en l'Évangile de Christ pour en retirer des avantages personnels. Comme pour bien d'autres personnes, franchir cette ligne avait été facile pour moi. Malheureusement, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne vont pas plus loin. Si vraiment il y a un Dieu, je peux avoir sa faveur, je veux être du bon côté, je veux pouvoir aller au ciel. Je veux qu'il m'accorde une bonne santé, de belles relations humaines, une vie heureuse. Tels les neuf lépreux ingrats de Luc 17, 11 à 19, une fois que Dieu m'était venu en aide, je l'oubliais. Bien souvent, nous n'admettons pas que nous sommes incapables d'aller plus loin que cela dans la foi. Nous voulons les bienfaits de Dieu sans toutefois changer notre façon de vivre. Nous voulons qu'il nous donne le meilleur sans être prêts à aucun sacrifice. Au niveau de cette première ligne, nous ne craignons pas Dieu et nous ne parlons pas de notre foi. Nous continuons à aimer le monde. Nous recherchons encore le bonheur à tout prix. Et la liste est longue. En tant que chrétiens de première ligne, nous prenons de Dieu tout ce que nous pouvons, sans beaucoup donner en retour, voire sans rien donner du tout. Cette foi de la première ligne est-elle véritablement la foi chrétienne? Cela suffit-il de croire en Jésus? Dieu se les juge, mais je ne suis pas sûr que le simple fait de croire en Christ fasse de quelqu'un un chrétien. Honnêtement, je suis tenté de dire non sincèrement, je ne crois pas qu'il s'agisse de la véritable foi chrétienne. Quand même, les démons croient en Jésus. Je m'inquiète du nombre de gens qui sont peut-être dans l'illusion. Au lieu de vivre comme des disciples de Christ, beaucoup font l'erreur de se laisser rassurer par un faux sentiment de bien-être. Et s'ils n'étaient que des chrétiens de nom, c'est-à-dire de faux chrétiens. En disant cela, je ne pointe personne du doigt. Sinon moi-même. Oui, pendant trop longtemps, j'ai déclaré croire en Dieu, mais ma vie ne correspondait pas à ce que j'affirmais. Chrétien, première ligne. Deuxième ligne, je crois suffisamment en Dieu et en l'Évangile de Christ pour donner sans que cela ne me coûte trop. Au-delà de la première ligne, nous trouvons des gens qui croient suffisamment en Dieu, non seulement pour recevoir, mais aussi pour donner un retour, à condition que cela ne leur coûte pas trop. Beaucoup de chrétiens de la première ligne finissent par franchir la deuxième. Si je ne dois pas trop changer, je ferai certaines choses que Dieu demande. Si cela ne me fait pas trop mal, je serai plus sérieux dans la foi. Mais tout le monde a ses limites, non? Tout comme le jeune homme riche de Matthieu 19, j'étais moi aussi prêt à observer le commandement de Dieu aussi longtemps que cela ne me coûterait pas trop. Mais là, par terre, toujours en larmes à côté de mon vélo, j'ai compris. J'étais un croyant de deuxième ligne. Je voulais bien le servir, le Seigneur, être engagé dans le ministère, mais je ne voulais pas trop être critiqué. Je voulais bien abandonner certaines choses pour lui, mais pas être souvent loin de ma famille. Je voulais bien suivre Jésus partout où il m'enverrait, mais il fallait que le travail en question comporte une garantie pour les miens. Je n'étais qu'à quelques centimètres de la troisième ligne, mais c'était comme si j'en étais à des kilomètres. Ligne 3. Je crois suffisamment en Dieu et en l'Évangile de Christ pour abandonner ma vie. Même si la plupart des gens que je connaissais étaient des croyants de ligne 1 ou 2, soudain, seule la ligne 3 m'apparaissait comme le christianisme véritable. Pouvais-je donner ma vie entière à Christ? Pas seulement en parole, mais concrètement, au quotidien? Ces passages que j'avais lus des dizaines de fois se sont soudainement clarifiés et imposés à mon esprit. Matthieu 16. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourrait donner un homme en échange de son âme? Suis-je prêt à perdre ma vie? Je savais au plus profond de mon cœur qu'il me fallait être un chrétien de la troisième ligne. Avec une soif insatiable, je commençais à rechercher l'eau vive plus que tous les autres produits de remplacement. Je me suis mis à prier comme jamais auparavant. Je commençais à chercher Dieu le matin et continuais durant la journée. J'avais le Seigneur à l'esprit quand je m'endormais, puis quand je me réveillais. L'Écriture est devenue le pain de ma vie et nourrissait mon âme. J'ai abandonné à Dieu une chose après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un obstacle entre le stade où j'en étais et celui où Dieu voulait me conduire. Et cet obstacle était de taille. Je ne peux pas vous dire de quoi il s'agissait, c'est simplement trop personnel. Seules deux personnes au monde sont au courant, etc. Mais il parle comment est-ce qu'il a franchi la troisième ligne. David n'est pas allé affronter le Goliath pour sa gloire. Il n'est pas affronté Goliath parce que c'était la bonne chose à faire. Il a affronté Goliath au péril de sa vie parce que sa vie était complètement et totalement consacrée à Dieu. Richard.